Excellent réveil, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est une formule inédite qu'inaugure les Nations Unies aujourd'hui, une assemblée générale sans chef d'État ni de gouvernement présent à New York. Mais des messages vidéo, pandémie oblige, la lutte contre le Covid-19 sera au cœur de ce sommet virtuel, la biodiversité aussi. Nous ferons un point dans ce journal sur l'origine animale du coronavirus.
Et puis la pandémie bouleverse les vies de chacun mais surtout de chacune. Les jeunes filles sont les premières victimes dans le monde des fermetures d'écoles et des lieux de sociabilisation.
C'est un projet de loi controversé qui arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée, celui qui réintroduit les néonicotinoïdes, dérogation pour la betterave sucrière, pour la protéger de la jaunisse, mais certains voient rouge jusqu'au sein de la majorité. Ce n'est pas moi qui m'intéresse, c'est d'être les autres, disait Michael Lonsdale, l'homme de théâtre et de cinéma, est mort hier à l'âge de 89 ans. Nous reviendrons sur ses 70 ans de carrière marqués par l'éclectisme et le catholicisme.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, États-Unis, pourquoi la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême est-elle capitale? Je poserai la question à François Verniol de Chantal. Il est professeur de civilisation américaine à l'Université de Paris.
Emmanuel Macron, Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine en message pré-enregistré. À cause du Covid-19, aucun dirigeant ne se rendra à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Des échanges virtuels donc toute cette semaine. Pas de rencontre informelle dans les couloirs de l'ONU pour tenter d'aplanir des différends diplomatiques, mais des interventions sous forme de vidéos pour une Assemblée générale largement consacrée à la pandémie et à la préservation de la biodiversité. Les deux étant liés, et c'est ce que l'on va voir avec vous, Tara Schlegel, la chauve-souris est avec certitude le réservoir naturel du SARS-CoV-2, mais ces petits mammifères n'ont pas pu directement contaminer un humain, Tara.
Oui, depuis la première épidémie de SRAS, les Chinois ont lancé un très grand nombre d'expéditions, notamment dans le Yunnan tout au sud. Ils ont récolté des milliers de chauves-souris. C'est ainsi qu'ils ont découvert, dans une mine désaffectée en 2013, chez des spécimens de l'espèce Rhinolophus affinis, un virus proche à 96% de notre SARS-CoV-2. Mieux, depuis, ils ont identifié chez des chauves-souris de type Rhinolophus malayanus, il faut savoir qu'il y a plus de 1400 espèces de chauves-souris au monde, un autre virus identique à 97% au nôtre. Mais dans les deux cas, ces virus sont incapables d'infecter des cellules humaines. Il manque donc toujours le maillon entre cette chauve-souris réservoir et le patient zéro, le premier homme malade.
Et c'est là qu'intervient, Tara, l'hypothèse du pangolin comme hôte intermédiaire. Il aurait pu s'infecter en léchant des cadavres de chauve-souris, mais cette hypothèse est loin d'être certaine, Tara.
Oui, car on a découvert chez des pangolins saisis par les douanes chinoises en 2017 et 2019 deux lignées de virus très intéressantes, car capables cette fois de pénétrer des cellules humaines, mais dont le génome n'est pas assez proche du SARS-CoV-2 pour être à l'origine directe du Covid-19. Moralité, comme on ne trouve pas cet hôte intermédiaire en Chine, l'animal vient peut-être d'ailleurs. C'est pourquoi des spécialistes des chauves-souris, comme le chercheur Alexandre Hassanin du Muséum d'Histoire Naturelle, plaident pour qu'on aille prélever des spécimens en Asie du Sud-Est. Pour l'instant, les Français ne peuvent s'y rendre pour des raisons sanitaires évidentes, mais ils ont sur place des étudiants, notamment au Vietnam, qui seraient capables de faire le travail. L'objectif est d'envoyer en France des fragments d'ARN de chauves-souris suffisamment bien conservés pour pouvoir séquencer d'éventuels coronavirus. Cette recherche serait d'autant plus précieuse que les Chinois, eux, ne partagent pas l'ARN de leurs animaux avec la communauté scientifique. Ils séquencent les génomes dans leur propre laboratoire et les chercheurs du monde entier doivent se contenter des résultats. Cette frilosité alimente d'ailleurs toutes les rumeurs, puisqu'un certain nombre de scientifiques sont aujourd'hui persuadés que le SARS-CoV-2 n'a pas une origine animale, mais qu'il est bel et bien sorti d'un laboratoire.
Tara Schlegel, merci pour ces explications. Aux États-Unis, le nombre de contaminations continue d'exploser. Premier pays au monde avec le plus de cas actifs recensés, 2,5 millions de cas en l'occurrence. À 6 semaines de l'élection présidentielle, les États-Unis franchissent un seuil douloureux, celui des 200 000 morts du Covid-19. Une épidémie gérée de manière catastrophique par l'administration Trump, dénoncent les démocrates en campagne. Critique balayée hier par Donald Trump. Il s'exprimait sur Fox News, sa chaîne de télévision préférée. Une interview suivie par Benjamin Illy.
Presque un millier de décès par jour avec une surreprésentation des minorités noires et hispaniques. Plus de 6 800 000 cas confirmés aux États-Unis. Mais fidèle à lui-même, Donald Trump ne doute pas. Hier sur Fox News, il a estimé que son administration avait fait plus que du bon boulot sur la pandémie. Il parle d'un boulot phénoménal. Le président américain qui va jusqu'à s'attribuer la note de A+ pour sa gestion de la crise sanitaire. Il répète qu'un vaccin sera prêt peut-être pour la fin du mois d'octobre. Et il assure encore une fois que l'économie est sur le point de se relever. Donald Trump se veut optimiste, comme il a toujours été depuis le début de la pandémie, à l'appui de ses 34 déclarations rassemblées par le Washington Post à 34 reprises entre le 10 février et le 15 septembre. Donald Trump a considéré que le virus allait disparaître, partir, s'éteindre. Mais le virus est toujours là, avec des foyers virulents ces dernières semaines dans les États du Midwest. Joe Biden, lui, reste à l'offensive sur le sujet. Il ne lâche pas son rival républicain, il a paniqué, il est dépassé par le virus. Il est pétrifié, a dit hier le candidat démocrate, ostensiblement masqué lors d'un déplacement dans le Wisconsin. Il juge Donald Trump disqualifié pour n'avoir pas su protéger les Américains.
Benjamin, il y est aux États-Unis, pays qui compte 61 décès du Covid-19 pour 100 000 habitants, contre 46 pour 100 000 habitants en France et 64 au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe, où le Premier ministre britannique Boris Johnson doit confirmer aujourd'hui la fermeture des pubs, bars et restaurants à 22h à partir de jeudi en Angleterre. Et dans cette pandémie, ce sont les vies des filles qui sont le plus bouleversées par la pandémie, du Brésil au Ghana, en passant par l'Éthiopie, l'Inde, la France et les États-Unis. Les jeunes filles se voient davantage privées d'éducation, de liberté et de sociabilisation. C'est l'alerte lancée aujourd'hui par l'ONG Plan International dans une enquête intitulée « Des vies qui s'arrêtent » menée auprès de 7000 filles dans 14 pays, les précisions de Nadine Epstein.
Quelques chiffres résument cette enquête. 62% de filles ont vu leur scolarité perturbée et 6 sur 10 ne reprendront pas les études. 58% des filles obligées de rester à la maison craignent des violences domestiques et des abus sexuels et une fille sur 4 redoute la perte d'emploi et la réduction de ses revenus. Le paradoxe pour Julien Bauer de l'ONG Plan International est que les enfants sont les moins touchés par le Covid, mais les plus pénalisés, en particulier les filles.
En contexte de crise, les filles ont 2,5 fois plus de risque que les garçons d'être déscolarisés. Et la particularité de cette crise, c'est qu'elle a aussi affecté nos pays, dits du Nord, parmi lesquels la France. Et on oublie souvent que l'école, qui est un lieu d'instruction, est aussi un lieu de sécurité. Raison pour laquelle, lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté et qu'on a eu ces vagues par millions de déscolarisations, les enfants se sont retrouvés chez eux, elles se sont isolées, elles se sont privées de lien social, elles sont privées d'éducation. On estime qu'il y aura 2 millions de filles supplémentaires sujettes à l'excision, à la fibulation, etc. Toutes les 2 secondes, on a une fille qui est mariée de force dans le monde, avant l'âge de ses 18 ans. Et la Covid-19, c'est potentiellement 13 millions de filles en plus qui pourraient être mariées de force. La Covid-19, c'est 47 millions de filles supplémentaires qui pourraient être privées de contraceptifs. Donc ce que l'on dit aux États, c'est cette continuité pédagogique, elle est indispensable, parce que sinon, c'est poursuivre le cercle vicieux de la pauvreté.
L'ONG présentera cette enquête à l'occasion de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre.
À savoir demain donc.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu au procès des attentats de 2015. On attend les témoignages des proches des 4 victimes tuées froidement dans la prise d'otage de l'hypercachère.
Cet après-midi, devant la cour spéciale de Paris, Zari Siboni, la caissière, va témoigner. Elle sera peut-être la seule ancienne otage de confession juive à prendre la parole. Les autres craignent de subir des représailles. Par ailleurs, la responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo a expliqué hier qu'elle avait été exfiltrée de son domicile à cause de menaces sérieuses. La majorité se trouve une nouvelle fois écologiquement dans l'embarras. Le projet de loi controversé qui permet de réintroduire des néonicotinoïdes arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il vise à autoriser la filière betterave sucrière de nouveau à utiliser ces pesticides jugés néfastes pour les abeilles. Mais déjà, La République En Marche pose ses conditions, Rosalie Lafarge.
Christophe Castaner tente-t-il de rassurer les Français ou ses propres troupes quand il prononce ces mots ?
N'ayez pas de doute sur notre ambition, sur notre exigence sur ces sujets-là.
Le sujet fait débat au sein de la majorité. Plusieurs députés grincent sérieusement des dents à l'idée de réintroduire des néonicotinoïdes et le nouveau président des marcheurs à l'Assemblée veut visiblement leur faire comprendre qu'il les entend.
En l'état, le texte proposé par le gouvernement ne peut pas avoir notre soutien.
Christophe Castaner plaide d'abord pour la création d'un comité de suivi doté de réels pouvoirs de contrôle, mais aussi pour l'inscription dans la loi de la limitation à la seule filière betterave sucrière. Ça risque de ne pas passer devant le Conseil constitutionnel. On y travaille, répond le député LREM Roland Lescure, mais le président de la Commission des affaires économiques veut avant tout faire comprendre la nécessité absolue de ces dérogations aujourd'hui.
En fait, c'est existentiel. C'est-à-dire que le sujet, c'est aujourd'hui des milliers d'emplois, pas seulement des producteurs de betteraves, mais des transformateurs. Donc soit effectivement on a une écologie, je dirais un peu excessive, qui ferme une filière en France. On continuera à manger autant de sucre en France, mais il viendra d'ailleurs et on n'en vendra plus à l'étranger. Moi, je préfère une écologie offensive qui reconnaît que dès aujourd'hui, 90% de ces insecticides ont disparu, qu'on va se donner les moyens pour les derniers 10% dans les 3 ans qui viennent.
À La République En Marche, avec ces 2 dispositions supplémentaires, on veut surtout se donner les moyens d'atteindre le consensus au sein du groupe, consensus précieux pour une majorité qui a tendance ces derniers temps à s'afficher plutôt divisée que rassemblée.
Au Mali, la transition passera également par des militaires, ou plutôt par un ex-militaire. Le pays sera dirigé pendant plusieurs mois par un colonel à la retraite et ex-ministre de la Défense, avant un retour des civils à la tête du pays, dans une période transitoire qui demeure sous l'emprise de la junte militaire. Son chef promet de gagner la guerre contre les djihadistes, on y revient, dans la revue de presse internationale de Camille Magnard, après le journal de 7h30. Il avait commencé sa carrière au théâtre dans les années 50 avec la troupe de Laurent Terzieff. Il avait joué des textes contemporains de Jean Anouilh ou de Paul Claudel, mais son auteur fétiche restait Samuel Beckett. Michael Lonsdal est mort hier à l'âge de 89 ans. Ses premiers succès publics dans Baiser volé au cinéma sous l'œil de Truffaut. Mais le César et la consécration critique et publique étaient venus pour ce chrétien fervent dans son rôle de moine dans Des hommes et des dieux de Xavier Beauvoir. Michael Lonsdal, converti au catholicisme à l'âge de 22 ans, a d'ailleurs souvent joué des rôles d'homme d'église, Benoît Grossin.
Michael Lonsdal se met dans la peau d'un ecclésiastique dès ses débuts au théâtre, en incarnant un pasteur dans une adaptation de la pièce d'Oscar Wilde, L'importance d'être constant, et très vite aussi au cinéma, sans doute pour sa présence et sa voix si singulière. Il est choisi par Louis Malle en 1971 pour jouer le père Henri dans Le Souffle-Cœur, après avoir déjà endossé la soutane dans le procès d'Orson Welles en 1962, cardinal dans Galiléo de Joseph Losey en 1974, Michael Lonsdal porte la robe de bure dans Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaud en 1986 et il va jusqu'à incarner l'archange Gabriel dans Ma vie est un enfer de Josiane Balasko en 1991 avant d'obtenir 20 ans plus tard le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Frère Luc, le moine libre et héroïque assassiné à Tibérine dans le long métrage de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux, un film idéal pour concilier sa foi et sa passion du cinéma, comme il le dit dans Avoir nu en 2011 sur France Culture.
Je suis heureux quand je peux à la fois vivre ce en quoi je crois et faire mon métier, quoi, oui. Oh, c'est tout simple, hein. Des tas de gens dans les rues m'arrêtent tout le temps, tous les jours, tous les jours. Ah, c'est vous qui jouez, ah, c'est vous qui jouez. Non, je suis frappé de voir comme ça, ça atteint les gens, ils s'en souviennent, quoi. Le film est sorti maintenant il y a 3 mois. On pourrait commencer à oublier, bah, pas du tout, c'est encore très très présent dans les esprits. Donc, ça correspond à quelque chose qui est positif dans l'être humain, voilà.
Fervent catholique, Michael Lonsdal avait cofondé un groupe de prière baptisé Magnificat, spécialement destiné aux artistes.
Michael Lonsdal, le brillant acteur qui a fait de tout, c'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr. Le temps de ce mardi 18 septembre, instable, les températures sont comprises ce matin, entre 6 et 15 degrés dans la moitié nord, 12 à 18 au sud.